Donc le coup est parti avec Jean-Baptiste, qui a baptisé Jésus. Mais d'où sortait Jean-Baptiste? Sortait de nulle part.
Alors, une première question.
Quelle légitimité a-t-il?
Une deuxième question.
Par rapport au motif, aux conditions, j'avais l'impression que le respect du Shabbat était souvent avancé comme une des raisons d'opposition.
Le respect du Shabbat comme cause de la mise à mort de Jésus.
D'accord, je vais partir peut-être sur ces deux. Écrire une question, d'où sort Jean le Baptiste, hein? Alors, c'est le surgissement d'une prophétie de rupture. Hein? Prophétie de rupture. Rupture pourquoi? Parce que, si je veux dire, la religion juive, la pratique majoritaire, consiste à dire, Dieu enverra son Messie, mais c'est pour dans très longtemps, hein? Et aujourd'hui, et en attendant, nous vivons face à Dieu, et le sacrifice pour l'expiation des péchés, il peut être offert par chacun au temple, et il est en tout cas offert une fois dans l'année au Yom Kippour, le rite d'expiation des péchés du peuple. Voilà. Jean le baptiseur dit, pas du tout, ça ne suffit pas. C'est mon baptême précédé par un engagement à la piété et à la justice. Donc c'est vraiment une prophétie de rupture avec l'institution même du temps. Hein? On a là un geste très fort. Alors d'où sort-il? C'est la vocation charismatique d'un Jean le baptiseur. Si on la replace dans son contexte, il est vrai que Israël a constamment reçu, accueilli, connu en son sein l'avenue de prophètes de rupture. Ésaïe, Jérémie qui dit « Mais moi, je vais aller acheter un champ là où l'armée assyrienne est en train de se préparer à envahir Jérusalem. » Ma prophétie, c'est d'aller acheter un champ là, c'est-à-dire de faire un geste d'avenir, là où tout le monde dit c'est la perdition qui nous attend et la débâcle militaire. Donc, les prophètes ont été couramment ces êtres charismatiques à la voie de rupture. Jean le baptiseur n'est pas un prophète. On disait en Israël qu'au 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, que le prophétisme s'était arrêté et que Daniel, milieu du 2e siècle, était le dernier prophète. Donc, on a là un phénomène de message de rupture, de retour aux sources, d'exigence radicale, qui surgit là, par une vocation charismatique assumée par Jean. Je ne sais pas si ça suffit pour résoudre la question que vous posez. Parce que pourquoi cet homme-là a reçu cette vocation charismatique, ça c'est le secret de la relation de cet homme à Dieu. Mais simplement ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue sociologique, ça n'est pas un phénomène exceptionnel. Il est au contraire assez courant dans le judaïsme de ce temps-là. Je dirais qu'il y en eut d'autres à côté de Jean le baptiseur, dont l'histoire a oublié les noms. La notoriété de Jean le baptiseur vient du fait, un, que Hérode Antipas, dont Jean le baptiseur critiquait le mariage, projet de mariage, et la vie morale dissipée, selon lui, a été décapité, et c'est peu fréquent, il a été décapité, et Flavius Josèphe en parle, et résume son mémoire, son message, deux, qu'il fut le mentor spirituel de Jésus, et la notoriété vient des évangiles. C'est ce qui l'a fait ressortir du lot. Le motif de la mort de Jésus, Oui, j'ai été un petit peu vite vers la fin, parce que je n'avais pas envie que vous vous endormiez, mais un peu vite pour la fin. Je veux dire, oui, Jésus s'est permis des libertés fortes dans l'interprétation de la Torah. Le fait de, non pas d'abolir le sabbat, mais de considérer que la prescription du repos sabbatique doit céder face à l'urgence de l'amour du prochain, et même si sa vie n'est pas en danger. Hein, parce qu'il y avait tout un débat au temps de Jésus. Hein, quand peut-on lever la prescription sabbatique? Et ce débat se portait notamment sur les questions d'urgence. Genre, si un animal est tombé dans un puits, le jour du sabbat, qu'est-ce qu'on fait? Pour Qumran, c'est clair. Rien. Et s'il meurt, il meurt. Parce que la prescription sabbatique l'emporte, même sur la vie de l'animal. Les pharisiens avaient une position plus laxiste. Ils disaient, faites en sorte de maintenir l'animal en vie. Lui tendre une planche, quelque chose comme ça. Et puis après, le lendemain du sabbat, vous accomplirez le travail de l'extirper de son puits. D'accord ? Donc, ils avaient une position plus laxiste. Donc, il y avait tout un débat qui était ouvert. Hein ? Lorsqu'il est reproché à Jésus de guérir le jour du sabbat, Jésus dit, le sabbat est le jour où il s'agit de faire le bien. Donc, Jésus a une position plus radicale encore. Mais est-ce que cette lecture radicale de la Torah autorisait de voir en lui un danger mortel pour la foi d'Israël? C'est là que le doute est permis. Oui, c'était dérangeant pour les pharisiens. Oui, c'était dérangeant pour les sadducéens. Mais Jésus pouvait être contredit, et il le fut certainement, publiquement. De là, le considérer comme devant être éliminé physiquement comme un faux prophète, je crois qu'il fallait plus, et c'est la raison pour laquelle j'ai pointé sur ce geste violent à l'égard du temple. Mais vous avez raison de rappeler qu'il y avait certainement d'autres motifs qui ont alimenté cette volonté.
Il a dit, Jésus a annoncé le royaume, et c'est l'Église qui est venue. J'aurais aimé un petit joint avec la postérité de Jésus.
Vous avez souligné l'opposition de Jésus au temple, au système. Est-ce qu'on pourrait aller un pas un peu plus loin? Et certains exégètes l'ont fait, de dire que ce que Jésus attaque, c'est l'aspect sacrificiel, c'est-à-dire c'est le problème d'accès à Dieu par le sacrifice. Et très curieusement, cet aspect sacrificiel va être, pour moi en tout cas, Jésus essaie de l'abattre dans une lignée prophétique, et l'Église s'empresse de le reprendre en reprenant le thème du sacrifice de Christ.
Oui.
Une troisième question. Oh, bon, c'est tout bête. Hein. Pourquoi on dit tout le temps et il se fait fils de l'homme?
Jésus a annoncé le royaume et c'est l'Église qui est venue. Cette phrase est devenue slogan le plus souvent de la part de ceux qui vont considérer que la venue de l'Église est en rupture complète avec l'action de Jésus. On oublie juste de dire que pour Loisy, cette phrase est tout à fait positive. Pour Loisy, si on lit en contexte, mais peu de gens lisent en contexte, cette phrase-là, si on lit en contexte, Alfred Loisy dit la venue de l'Église est dans l'évolution tout à fait naturelle du mouvement de Jésus. Il a créé une communauté qui va peu à peu s'institutionnaliser et s'incarner dans la structure de l'Église. Donc pour Loisy, oui, c'est l'évolution naturelle de la prédication de Jésus. Alors, moi j'ajouterais ceci. Il est historiquement évident que Jésus n'a pas voulu créer l'Église. Jésus n'a pas mis en place un système, une institution, des règles qui régiraient une communauté après lui. Jésus n'a pas géré l'après-Jésus. Jésus était voulait réformer le judaïsme. C'est pour ça que j'ai dit qu'il est 100% juif. Il voulait réformer le judaïsme, il a échoué. Il a échoué du fait de la résistance sadducéenne dans cette réforme de la foi juive. Il se trouve que après sa mort et la divine surprise de Pâques, deux courants sont nés. Le premier, c'est le courant symbolisé par l'Église de Jérusalem, le judéo-christianisme, des juifs convertis au Messie Jésus, et un autre mouvement qui va prendre le pas très rapidement et surplomber totalement le premier, qui est la prédication aux non-juifs, c'est-à-dire aux païens. Et donc, l'Église, et on le voit, c'est ce que j'essaie de montrer notamment dans mon livre sur Paul, l'enfant terrible du christianisme, l'Église va peu à peu devoir s'organiser, adosser à l'enseignement de Jésus, mais se doter de structures, de formes, de ministères pour lesquels Jésus n'avait donné aucune indication. Ce qui ne veut absolument pas dire que ce soit une trahison de son message, non. Mais c'est une réception de son message dans des conditions autres que celles auxquelles il avait pensé, c'est-à-dire hors du judaïsme. La deuxième question, rappelez-moi, sacrifice, oui. Alors, il se trouve, vous avez raison, il se trouve que très tôt, les premiers chrétiens vont interpréter la mort de Jésus et surtout sa réhabilitation pascale comme la parole dernière de réconciliation. La parole dernière de réconciliation entre Dieu et les hommes, Dieu et les humains, de telle manière que le sacrifice n'était plus nécessaire pour renouveler périodiquement, régulièrement, la relation entre Dieu et les humains. Si vous voulez, le sacrifice vise à dire il nous faut renouveler l'alliance avec Dieu. Il nous faut répéter le geste qui nous réconciliera avec Dieu. Les premiers chrétiens disent non. Par la croix, Dieu réconcilie le monde avec lui. Donc il n'y a plus d'effort à faire du côté des humains. Donc, de la lecture de la croix, les premiers chrétiens ont tiré la conclusion que Dieu avait pris une initiative qui rendait obsolète la démarche sacrificielle. Maintenant, est-ce que c'est le geste violent de Jésus à l'égard du temple qui a provoqué cette lecture ou pas? Je suis enclin plutôt à penser que c'est la lecture de la croix plutôt que le geste envers les marchands du temple. Pourquoi dit-on fils de l'homme? Alors, le fils de l'homme, c'est un personnage énigmatique. Le premier à avoir parlé du fils de l'homme, c'est le prophète Daniel, Daniel 7,13, du fils de l'homme qui vient sur les nuées. Au temps du prophète Daniel, le fils de l'homme, en fait, c'est un être collectif. C'est le peuple d'Israël. C'est un personnage collectif. Ce n'est pas un monsieur. Ce n'est pas un individu. Mais depuis le milieu du deuxième siècle, prophétie de Daniel, ce personnage s'est progressivement individualisé. Mais le fils de l'homme, ce n'est pas le Messie. Le Messie, c'est le sauveur nationaliste d'Israël. Il y a une dimension politique, militaire et nationale. Messie. Hein? Le Fils de l'homme, c'est celui que l'on attend et qui procédera au jugement dernier. C'est-à-dire qu'il viendra dire, qu'il viendra proclamer et instaurer le discours de vérité de Dieu sur chaque être humain, chaque individu. Le Fils de l'homme, c'est celui qui viendra de la nuit, sur les nuées de la part de Dieu, il viendra procéder au jugement dernier. Jésus a été, dans la foi chrétienne, peu à peu identifié au Fils de l'homme. Quand bien même Jésus a dit, vous le trouvez dans l'évangile de Luc et au chapitre 8, Jésus dit, « Celui qui me reconnaîtra sur la terre, le Fils de l'homme le reconnaîtra. Et celui qui me reniera sur la terre, le Fils de l'homme le reniera. » Pour Jésus, le Fils de l'homme, ce juge de la fin des temps, va confirmer, va valider son enseignement. Et puis peu à peu, la foi chrétienne va identifier Jésus est le Fils de l'homme, de telle manière d'ailleurs que quand vous lisez en synopse Marc, Matthieu et Luc, vous apercevez que des paroles chez Marc où Jésus dit le Fils de l'homme, Matthieu réécrit je, le je de Jésus. Vous voyez, parce qu'au fond, c'est la foi chrétienne qui va dire, mais celui qui nous attendons et qui va procéder à ce discours de vérité sur la vie de chaque individu, en fait c'est le Christ.
Juste une petite question un peu provocante. Dans le texte d'Abraham avec Cassis sur Jésus, il dit que Jésus aujourd'hui se retrouverait plus à l'aise dans une synagogue que dans une église. Je voulais savoir ce que vous en pensiez.
Première question, deuxième. J'ai entendu Simon Canard expliquer une façon de voir la naissance de Jésus comme quelque chose. Se joue, se passe dans un contexte de marginalité des personnages. Mais alors, je dis que cette façon de voir est plausible, mais je ne vois pas comment on peut la raccorder avec les scènes où on voit Jésus prendre la parole pour lire les textes sacrés à la synagogue, ou une autre situation que j'avais en tête, mais j'ai perdu. Voilà. Comment on constitue, quelle cohérence y a-t-il entre les conclusions qu'on tire de la naissance de Jésus dans un contexte et puis les autres scènes où on le voit parler dans des contextes qui sont tout à fait normaux à l'époque des Juifs de Jésus.
Troisième question. Oui.
Est-ce que Jésus est né à Bethléem ou est-ce que c'était un...
Voilà, donc trois questions. Daniel, vous allez choisir.
La question provocatrice. Jésus aujourd'hui serait plus à l'aise dans une synagogue que dans une église. Oui et non. Oui, dans la mesure où je l'ai dit, Jésus est un juif à 100%. Il intervient dans les synagogues, il prêche dans la synagogue. Et donc, oui, c'est son milieu religieux. Mais non. Parce que Jésus remet en cause le caractère discriminatoire et nationaliste de la foi juive. Et donc Jésus serait à l'aise dans les rites, mais pas dans ce qui fonde la foi d'Israël. Pas dans cette universalité. Jésus, au fond, met en avant ce qu'a bien réexprimé d'ailleurs l'apôtre Paul, c'est le Dieu de tous et de chacun. Or, Israël vit d'une foi particulariste, c'est-à-dire Dieu est le Dieu d'Israël, point. Et pas des païens. Et donc Jésus ne serait pas à l'aise dans une synagogue sur cette image de Dieu, mais il le serait sur les rites. Voilà. Jésus, Mamzer, le judaïsme ne connaît pas l'excommunication. C'est une très mauvaise invention chrétienne, l'excommunication. Vous savez ? Mais c'est une invention chrétienne, pas juive. Le judaïsme, en tant que Jésus, vit d'une diversité, d'une pluralité. Mais aujourd'hui encore, hein, les Juifs disent en souriant, trois Juifs, quatre opinions. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, contrairement au christianisme, les Juifs reconnaissent comme bénéfique la pluralité, la diversité des modes de croire, de penser et de prier. C'est la grande force du judaïsme. Pourquoi? On peut être très différent parce que nous nous reconnaissons, nous les Juifs, attachés à la même identité et à la même Torah. Et ce qui nous lie, est beaucoup plus fort que ce qui nous sépare. C'est une très grande leçon qu'à mon avis, le christianisme aurait dû recevoir et pratiquer. Parce que, en régime chrétien, on a parfois l'impression que le sport consiste plutôt à dire « Nous, nous possédons la véritable foi en Jésus, et les autres, des autres églises, des autres communautés, sont dans l'erreur. Hein? Nous sommes les orthodoxes, les autres sont des hérétiques. » Mais je m'excuse. Ça, ce n'est pas la prédication de Jésus. Bon. Alors, le mamzer, il n'est pas excommunié. Mais le malade non plus, quand Jésus guérit un homme à la main sèche à la synagogue. Les malades sont considérés comme des impurs. À la synagogue, les impurs ne sont pas chassés. Ils sont marginalisés, mais pas chassés. Voyez ? Donc on dit, je ne peux pas comprendre. Si, justement, mais il faut vraiment nous imprégner. Il faut vraiment nous imprégner de cette magnifique conscience, encore une fois, d'une identité commune plus forte que ce qui nous divise et nous sépare dans l'opinion. Vous voyez ? Et on pourrait se dire que si le christianisme se mettait à penser ainsi, la question de l'unité du christianisme ne serait pas aussi insoluble qu'elle est posée. Et puis la troisième question. Oui, est-ce qu'il est né à Bethléem ou est-ce une fake news? Je vais vous décevoir. Non, personne ne sait. Personne ne sait. En fait, non, pour être honnête, hein, il y a du pour et du contre. Bethléem, la maison du pain, la ville de David, etc., qui pourrait pousser là, et puis Marie, enceinte jusqu'aux yeux, qui fait des kilomètres sur une mule. Non, c'est pas très réaliste. Hein? En même temps, il n'y a aucune tradition forte, ancienne, qui situe la naissance de Jésus ailleurs. Aucune. Alors, d'un point de vue historique, ce qui paraît, je crois, incontestable, c'est que Jésus n'est pas né à Nazareth. Il est né ailleurs. Je peux faire une petite note en bas de page. Dans l'image du Jésus Mamzer, que Joseph, tout le monde là à Nazareth, c'est une petite bourgade, tout le monde se connaît, on a vu le ventre de Marie s'arrondir, et que Joseph ait voulu extraire Marie de ce milieu-là pour que la naissance se déroule dans le calme et dans la paix et hors des rumeurs, moi ça ne m'étonnerait pas. C'est une supposition. Mariura, faites-en ce que vous voulez. Mais donc, peut-être à Bethléem ou peut-être ailleurs, mais l'ailleurs, personne n'est en mesure de l'identifier. Donc, moi je dirais, pourquoi pas Bethléem ? Et c'est important ? Non. Non. Ce qui est important, c'est que Jésus est né dans le peuple juif comme un petit homme. Comme un petit homme et dans une condition de fragilité, qui va marquer toute sa vie, mort incluse. Une condition de fragilité. Mais au fond, l'important de la tradition de la naissance à Bethléem, c'est précisément de mettre en avant cette inouïe que celui en qui les chrétiens vont reconnaître le porte-parole de Dieu, l'icône de Dieu, naît dans des conditions aussi misérables, exposées et fragiles. La croix est déjà là, dans la naissance. C'est ça le plus important.
A-t-il été circoncis ?
Alors, le rite de la circoncision n'est pas cité à son propos. Hein ? Il y a un rite que rapporte l'évangile de Luc, qui est de présentation au temple, où se mêle le sacrifice pour restituer la pureté de la mère et le sacrifice, enfin, le rite de réadmission de la mère après son impureté, pour être tout à fait précis, et puis le sacrifice pour le premier-né. Ce sont deux rites d'ailleurs différents que Luc rapproche lors de la présentation au temple en présence de Siméon et de Anne. Mais les évangiles ne parlent pas de la circoncision de Jésus. Je vous l'ai dit, l'enfance est constituée d'années obscures. Encore une fois, quand j'ai dit de l'activité de Jésus adulte, sa présence dans les synagogues, sa participation au pèlerinage, sa prédication dans la synagogue, on en déduit ce qu'il a reçu comme instruction religieuse de la part du Père, mais on le déduit rétrospectivement, vous voyez. Est-ce que la circoncision allait tellement de soi qu'elle n'a pas été nommée? Peut-être, je serais plutôt partisan de cela, dans le judaïsme ancien, la bar mitzvah n'était pas régulièrement organisée à 13 ans. C'est le rite de la bar mitzvah de 13 ans est de beaucoup postérieur. Il y avait l'équivalent d'une bar mitzvah qui ritualisait l'accession du garçon au statut d'adulte religieux, mais elle se déroulait grosso modo entre 8 et 12 ans, semble-t-il. Entre 8 et 12 ans. Le Talmud fixe des règles bien postérieures. Moi, je dirais que c'est de l'ordre de l'évidence, mais voilà, c'est toujours difficile de faire parler des silences. Hein.